Bonsoir, alors merci d'être venu. Nous avons la chance de rencontrer Marion Muller-Collard. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Nous allons parler de votre dernier ouvrage qui s'appelle L'intranquillité, qui est sorti chez Bayard. Et la toute première question que j'avais vraiment, que j'étais impatiente de vous poser, concerne le titre.
Que j'ai emprunté à Fernando Pessoa.
Je voudrais savoir pourquoi vous avez eu envie d'emprunter ce titre. Est-ce que c'est un mot que vous utilisez facilement depuis longtemps? Est-ce qu'il est apparu récemment parce qu'il y a une raison précise? Je voudrais savoir ce que raconte ce titre.
En fait, il raconte. C'est aussi une réponse à la demande de l'éditeur de Bayard, qui un jour m'a invité à déjeuner et m'a demandé si j'étais d'accord d'écrire un ouvrage pour sa collection qui s'appelle « J'y crois ». Et quand je suis rentrée à la maison et que j'ai raconté cette demande à mon mari, il a éclaté de rire en disant « Alors vraiment, une collection qui s'appelle « J'y crois », ça ne peut pas être pour toi, parce que toi c'est plutôt « j'y crois pas », alors je ne sais pas, invente un truc, le doute, j'y crois, ou je ne sais quoi ». Et effectivement, je me disais, tout ce qui est très péremptoire me fait peur en fait. Les affirmations péremptoires sont des choses qui m'effraient. Les gens qui sont très très sûrs d'eux comme ça, ça me fascine. Je me dis heureusement qu'il y en a, parce que sinon le monde aurait du mal à fonctionner, mais ça a tendance à m'effrayer un petit peu. Et du coup, au départ, je me suis dit non, j'y crois, je peux pas participer à cette collection. Et finalement, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai tourné autour de l'intranquillité. J'ai ce livre de l'intranquillité que dans lequel je remets mon nez comme ça de façon ponctuelle. C'est pas quelque chose qui se lit de bout en bout, quoi, mais ce livre de Pessoa. Et c'est vrai que c'est un peu chez ce genre d'auteur que je trouve un peu ma famille humaine, c'est-à-dire des gens qui se demandent toujours comment ça se fait qu'on soit là, qu'on existe. Qu'on soit vivant, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire en fait, et donc c'est un peu dans cette grande famille de questionneurs que je trouve moi-même mon origine en fait, mon ADN, et c'est comme ça que l'intranquillité m'est venue. Oui, je crois en l'intranquillité, et dans le double sens de croire qu'elle est inéluctable, si ce n'est au risque du fanatisme, en fait, enfin de la rigidification, de la fixation, de la vie, qui est pour moi quelque chose de liquide, de mouvant. Et j'y crois comme un credo, comme un plaidoyer aujourd'hui pour assumer cette part qui fait de nous des êtres humains, quoi. Voilà.
Alors ça pourrait être en fait ce titre qui serait le point de départ. Oui. De l'ouvrage qui en même temps fait un pont avec toute votre histoire, les auteurs que vous aimez, votre façon d'appréhender les choses. C'est aussi un lien.
Oui, c'est la commande, hein. C'est la commande de la collection. Je veux pas me déresponsabiliser totalement, mais
c'est un petit peu quand même.
Mais c'est-à-dire, je suis quelqu'un d'assez scolaire malgré tout, donc quand on me demande quelque chose, je m'applique. Je suis restée quelqu'un d'assez appliqué. Je rends toujours mes devoirs à l'heure, mes manuscrits sont jamais en retard.
C'est assez tranquille, hein, d'être à l'heure.
Ça me rassure. Ouais.
Alors là, on a un problème quand même.
On a plein de problèmes. On a beaucoup de problèmes. C'est pas le plus important, celui-ci, je vous assure. Non, c'est-à-dire, comme je suis quelqu'un un peu, voilà, un peu sans beaucoup de bordures, il faut que je me borde. Alors, de respecter, par exemple, les timings, oui, c'est une façon de se border. Voilà, parce qu'intranquillité, ça ne veut pas dire bazar permanent non plus. Enfin, en vérité, ça peut vouloir dire ça pour moi, mais je me cadre.
Mais pour vous, donc? Pour vous, intranquillité veut dire quoi, alors ?
L'intranquillité, c'est de ne pas mettre en perspective comme objectif de vie le confort, la facilité ou même une notion de réussite, en fait, mais de se laisser surprendre et de ne pas préfixer, en fait, de ne pas trop prévoir, de pas faire des plans à long terme. Je déjeunais lundi avec des amis qui étaient en panique parce que leur fille de 20 ans savait pas encore ce qu'elle voulait faire de sa vie. Et j'essayais de leur expliquer qu'en fait, il y avait guère que leur génération à eux, puis encore un petit peu la mienne, qui s'était laissé vraiment enfermé dans l'idée qu'à 16 ans, on devait savoir qui on était une fois pour toutes et qu'on devait faire des choix définitifs. On fait déjà ça avec le mariage, ce qui n'est pas simple comme choix. Alors aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent et qui s'imposent plus ça par rapport à leur métier. Mais moi, je dis, c'est super. Enfin, c'est super à 20 ans de ne pas prétendre savoir qui on est. Et moi, je veux continuer à m'offrir cette possibilité. Voilà, je relisais une phrase de Rilke qui disait « Mais ne me demandez pas d'être accompli ». C'était un espèce de cri « Ne me demandez pas d'être accompli ». Mais quand on n'est pas accompli, ça veut dire alors, oui, qu'on est voué à une certaine forme d'intranquillité, avec ce revers paradoxal que plus je vieillis et plus je me rends compte que c'est aussi dans cette intranquillité que moi je trouve une forme de paix. C'est-à-dire, je sais qu'à un moment donné, je vais être en difficulté. Je sais que l'autre va venir me déranger au moment où je vais me dire « Ah, je pourrais me poser, enfin, le téléphone va sonner. » Je sais que c'est le moment où je sors mon bouquin, que mes enfants ont un besoin urgent d'une discussion existentielle qui n'est pas reportable au lendemain. Voilà, et je trouve que c'est ce qui fait aussi l'aspect pétillant de l'existence. Et j'ai renoncé à avoir des programmes hyper figés. Voilà.
Vous avez renoncé quand ? Il s'est passé quelque chose ? Vous avez pris conscience de finalement des petits bonheurs qui sont associés pour vous à cette intranquillité, de cette satisfaction de se rendre compte que finalement ce que vous racontez, c'est la conscience d'être vivant.
C'est la conscience d'être vivant et c'est surtout la conscience que mon imagination et mes projections seront toujours en dessous de la grandeur de la vie en fait.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment ça. Alors ça, j'en ai pris conscience vraiment en l'écrivant. Parce qu'une fois que j'avais trouvé que moi, c'était en l'intranquillité que je croyais, encore fallait-il pouvoir le déployer. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai fait mille fois l'expérience de ces endroits où je ne veux pas aller, de ces relations dont a priori je ne veux pas, et qui s'avèrent finalement être le caillou dans la chaussure qui va me faire faire un détour que je n'avais pas imaginé et qui va être le détour peut-être le plus beau de l'année. Voilà, donc c'est aussi d'accepter... Pour moi, l'intranquillité, ça a vraiment à voir avec l'interdépendance. On est vraiment une espèce ultra interdépendante. On peut vivre comme on veut. Moi, en l'occurrence, je vis dans une clairière. Mon mari avait posé comme critère d'achat de maison qu'on n'ait pas de voisins. Vous voyez, c'est comme on croit en l'humanité de par chez moi. Et je le trouve un peu raide. En même temps, je comprends parce qu'effectivement, c'est pas. Enfin voilà. En tout cas, c'était son critère absolu à lui. Pour moi, c'était le soleil. Je suis née à Marseille. Déjà, on est obligé de vivre en Alsace, donc ça va bien comme ça, deux minutes, mais pas plus. Et donc moi, c'était plein sud. Lui, c'était pas de voisins. Bon résultat, on se retrouve dans une clairière plein sud, mais totalement isolée. On n'accède même pas en voiture, ce qui fait qu'on a peu de visites parce qu'il faut grimper pendant un quart d'heure, etc. Donc voilà. Et effectivement, on peut faire les choix de reclusion les plus extrêmes, si tant est que ce soit à ce point extrême. Mais il y a toujours un moment où vous êtes rattrapé par votre dépendance, votre curiosité de l'autre. Il y a un magnifique livre qui traite de ça, qui est le livre de Céline Mina, Le Grand Jeu, qui montre très bien quelque chose que moi j'ai plus montré dans mon livre précédent, Le Complexe des Lits, mais que je reprends aussi ici, c'est que toutes nos relations sont régies en fait par une dimension de menace et de promesse en permanente, et qu'en fait on n'a pas... On croit qu'on a envie de s'en soustraire parce qu'on croit qu'on va être tranquille, mais en fin de compte, c'est comme manger sans sel, quoi.
La tranquillité, c'est un peu l'ennui aussi.
Ouais, et puis c'est la réduction. C'est que vous réduisez. Enfin, moi, il me semble que c'est une façon de réduire, en fait la fulgurance de la vie. La vie est quelque chose de très fulgurant et je trouve que ce qui fait vraiment sa saveur sont les surprises, c'est tout ce qui arrive et qu'on n'attendait pas. Enfin, je sais pas, pour ceux qui sont parents, on se projette, on imagine ce que c'est que d'avoir des enfants avant, on imagine même l'enfant qu'on attend, il va être comme ci, comme ça. Et en fait, il est toujours hyper différent. Et c'est ce qui nous casse les pieds, c'est qu'en fait, on n'avait pas du tout imaginé... avoir un enfant comme ça, qui prendrait, qui ferait ces choix-là, et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ceci, cela, alors qu'il ne me fait rien à moi, il se construit lui. Et en même temps, c'est ce qui fait que c'est extraordinaire. Si on savait à l'avance, quel intérêt, franchement.
Alors, dans votre livre, vous soulignez aussi une vraie différence entre tranquillité et tranquillisant.
Oui.
Alors ça, c'est très important. Parce que à la fois vous en faites vraiment une différence marquée, et en même temps c'est intéressant parce que dans les deux cas vous associez quelque chose de l'ordre de la consommation qui rassasie, qui empêcherait presque de réfléchir. Moi en tout cas c'est le lien que j'ai vu entre les deux. Vous les dissociez, mais je les ai trouvés extrêmement proches malgré tout.
Oui, c'est juste le tranquillisant, c'est peut-être là je parlais vraiment techniquement, on est le pays, paraît-il, qui consomme le plus d'anxiolytiques, en tout cas en Europe. Et c'est vrai qu'économiquement, là aussi, c'est quand même c'est plus pratique quand quelqu'un se plaint, quand quelqu'un, ou par exemple un enfant qui n'arrive pas à dormir. Enfin, voilà, le recours aux médicaments, c'est un tranquillisant qui, en fait, n'amène pas la tranquillité à celui qui le consomme, mais à son entourage. La plupart du temps. Voilà. Et la tranquillité, au sens de cesser de penser, pour moi aussi, ce livre, il s'origine beaucoup dans mon étude de Hannah Arendt, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la pensée, on ne peut pas être dans la tranquillité au sens où je l'emploie, mais on peut l'employer autrement. Mais en tout cas, l'usage que j'en fais qui s'approcherait de dire, voilà, je me pose devant la télé, surtout je ne regarde pas quelque chose qui me ferait réfléchir, surtout, voilà, je consomme quelque chose, enfin, on est presque relié à des sondes comme ça de gavage qui peuvent nous permettre de remplir, en fait, tout espace vacant pour divaguer, pour tout d'un coup se dire, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé telle personne, pour se réinquiéter, en fait, de notre entourage, Donc oui, vous avez raison. Enfin, je comprends le lien que vous faites et il me paraît juste. Ouais.
Merci. Mais cette idée de remplissage aussi, alors je trouve que dans votre livre, elle a une place très importante parce que quand on ferme le livre, on n'est pas capable de savoir si ce livre est extrêmement contemporain ou si ce livre n'a pas d'âge. Puisque je trouve que cette idée du rapport à la consommation, du rapport à la tentation, à la consommation, par ce côté de la tentation de vivre autre chose, de faire autre chose, de ne pas pouvoir profiter pleinement de ce qu'on a au moment où on est, de s'en contenter, je trouve que c'est quelque chose qui peut-être s'accélère aujourd'hui, mais qui en réalité a été aussi le plus grand moteur de l'homme.
Oui, alors... Il y a plein d'aspects très contemporains, j'imagine, et souvent on ne les découvre qu'a posteriori. Quand j'écris le livre précédent sur spiritualité et politique, j'ai l'impression de faire un espèce d'ovni qui concernerait personne, et puis en même temps, pam, 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 tout est sorti aussi dans cet ordre, enfin dans ce thème-là. Enfin, moi, je crois beaucoup en l'inconscient collectif et que écrire, c'est être aux aguets, en fait. C'est travailler sa porosité avec le monde. Et du coup, c'est être une voie d'infiltration permanente. Et c'est pas étonnant que même sans que ça vienne à la conscience, ce qui frémit nous touche et qu'on s'en empare, même sans se dire... Enfin, moi, je suis jamais dans un calcul, en fait, de me dire, tiens, il faudrait faire ça c'est ça qui va marcher. Je me suis toujours débrouillée économiquement pour ne pas avoir besoin de vivre de l'écriture, pour pas être dans cette pression, justement, dans cette prostitution de ce qui est pour moi, en fait, l'essence de ma vie, mon poumon, en fait, mon troisième poumon qui est l'écriture. Je veux pas avoir besoin d'en vivre. Donc, je suis jamais dans un calcul. Néanmoins, je suis souvent surprise, effectivement, de voir que le vent tournait au moment où je l'ai pris, en fait, et je m'en rends compte après, a posteriori. Mais cependant, donc, je vois que vous avez beaucoup travailler, ce qui m'impressionne, et donc, vous savez que je suis théologienne de formation, et donc je suis quelqu'un qui lit beaucoup la Bible et qui me suis beaucoup intéressée à la problématique religieuse. Et le drame de la religion, c'est que c'est quelque chose qui cherche à gaver, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui remplit. Et pour moi, c'est vraiment une énorme problématique de la religion et qui a aussi comme objectif de rassurer, en fait. La religion, telle qu'elle a été utilisée par l'homme, elle agit en deux temps. Elle vous fait peur et ensuite, elle vous propose une solution pour plus avoir peur. Ça fonctionne comme ça, le religieux. Le politique, d'ailleurs, a fini par s'emparer de ce système. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'on vous fait peur, on vous dit, attention, il y a un énorme danger. Et en même temps, vous effrayez pas trop, on a une solution. Et donc, si vous faites ceci, cela, il y aura plus de problème. Et donc, il y a un remplissage, il y a une espèce de... qui tue, en fait, la quête du sens. Alors, c'est étonnant parce que quand on se réfère aux textes de fondateurs de nos grandes religions monothéistes, on peut trouver au contraire des voix qui portent du côté du creux, en fait, du côté de creuser et de des voix en fait qui s'opposent à toute forme de satiété. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je relis l'Évangile, c'est comme ça que je relis beaucoup d'autres textes et que j'échange aussi avec d'autres écrivains, musulmans, juifs, etc. Et on fait tous ce constat qu'on arrive chacun à trouver dans nos traditions des textes fondateurs de l'éloge du manque et du nomadisme aussi. On est tous, les trois grandes religions monothéistes sont enfants d'Abraham. Abraham, c'est le nomade par essence, en fait, et pour moi, par définition, on devrait tous assumer un nomadisme existentiel, qui a deux intérêts. D'abord, c'est que vous n'êtes pas en train de vous figer et de vous enfermer dans des forteresses de certitude, et ensuite, plus on marche, plus on a de chances de rencontrer les autres. Donc, c'est les deux vertus du nomadisme. Donc, en ce sens, cette tentation dont vous parlez, elle prend des formes actuelles qui sont spécifiques à notre époque, qu'on peut nommer comme on veut, je ne sais pas, Internet, télévision, médias, j'en sais rien, je ne sais même pas en fait si c'est là qu'est le problème. En tout cas, à mon avis, ce sont des archaïsmes anthropologiques malgré tout, cette espèce de quête de remplissage que je connais très très bien. Enfin, moi, je sais que mes enfants se moquent de moi parce que dès qu'ils ont un nouveau jeu, je ne le regarde pas parce que je regarde 2 minutes, après je deviens addict et puis je pourrais passer mes journées à jouer à des trucs stupides. Je sais très bien ce que c'est, ça. Enfin, parce que ça me vide le cerveau. Pendant ce temps, je ne réfléchis pas, je suis contente. Ça me repose, voilà. Mais bon, après, il y a des fois, au bout d'un moment, entre être reposé et lobotomisé et quasiment en mort cérébrale, en fait, des fois, on passe des caps, on ne s'en rend même pas compte. Donc, voilà.
Est-ce que c'est aussi votre histoire de théologienne qui vous a permis finalement d'avoir ce regard sur la religion et aujourd'hui de vous considérer croyante d'une nouvelle façon, en fait, qui est une façon, j'ai envie de dire, plus critique.
C'est pas une nouvelle façon. Dans la religion, il y a toujours eu le clergé et les prophètes. Dans toute religion, il y a toujours eu un clergé et des prophètes. Et donc, le clergé, c'est celui qui fait tourner la boutique. Et les prophètes, c'est ceux qui disent, dis donc, ta boutique, comment elle tourne? Et voilà. Et il y a des prophètes dans le clergé, et il y a des prophètes qui s'instituent prophètes et qui sont en fait des gens totalement psychorigides. Mais je veux dire, Maître Eckhart, vous pouvez en prendre plein, des grandes figures spirituelles que je ne me considère pas être une grande figure spirituelle. Mais je veux dire, c'est deux places. Quand à un moment donné, vous vous dites, bon, allez, grosso modo, je suis quand même plutôt croyante qu'athée, et que vous essayez de trouver votre place au milieu de ça, vous allez avoir cette double voix qui va se poser. Est-ce que vous... Moi, je suis quelqu'un toujours du seuil, en fait. Ce qui m'intéresse, ce sont les lisières. C'est là que j'habite, en lisière de forêt, et c'est tout ça qui m'intéresse, toujours la lisière. Donc, mais vous me mettriez... je me retrouverais en entreprise, ce serait pareil, je serais sur la... Voilà, parce que c'est bien, on ne peut pas s'installer, là.
Comment vous expliquez que le clergé a pris autant de place alors par rapport aux prophètes et que finalement, c'est rigolo parce que vous parlez de boutique. Alors on est en train de parler de cette forme de tranquillité qui se nourrit de remplissage, vous avez utilisé le mot gavage, d'une forme de consommation qui nous permettrait de nous éteindre. Et vous parlez de boutique pour le clergé, c'est rigolo comme appellation. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, finalement, il y a une telle présence de la religion et en même temps une telle opposition à la religion, mais que c'est devenu actuellement un sujet en soi éminemment ténu?
Je peux vous poser une question, j'ai le droit de faire ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous? Pour que je puisse vous répondre, en fait, il faudrait que je comprenne pourquoi vous dites qu'il y a une telle présence de la religion. Je suis d'accord, mais il y a plusieurs façons d'observer ça. Vous parlez notamment de, par exemple, comment s'est passée la campagne ou l'articulation religion-politique.
Je dirais le climat politique en général, mais pas spécialement ou uniquement la campagne électorale en France. Les campagnes électorales dans les pays du monde entier, le regard qu'on a les uns sur les autres, les débats publics, en fait, la télévision, les lois qui sortent, en fait, la façon dont on réécrit finalement notre rôle de citoyen aujourd'hui avec des nouvelles préoccupations qui sont liées au social, à l'écologie, à l'économie, mais dans lesquelles il y a à nouveau cette interrogation sur la religion, la place de la religion.
Mais parce que je pense qu'on a fait une erreur, c'est de croire qu'en en parlant plus, ça disparaîtrait, en fait. Je pense qu'il y a un archaïsme humain qui fait que la religion, c'est un monstre, à 10 têtes au moins, et vous lui en coupez une, il lui en repousse 10 de plus. Donc en fait, je pense que vraiment, il y a eu un mauvais traitement de la question religieuse, et notamment, moi je viens d'Alsace, je peux vous dire que c'est vraiment intéressant, la laïcité alsacienne, elle est passionnante, parce que c'est pas de l'étouffement du religieux, c'est « allez, c'est là, ça fait partie de notre histoire ». Moi, je suis encore surprise aujourd'hui parce que je ne suis pas alsacienne d'origine. Donc, quand je suis arrivée en Alsace, j'ai commencé à faire de la théologie. Bizarrement, quand on est théologien, au lieu d'aller au McDo l'été pour financer ses études, on fait des stages en paroisse. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et la première fois que j'ai fait un stage, je devais être en licence, j'ai reçu ma paye du ministère de l'Intérieur. Moi, ça m'a choquée. Je venais de la Drôme, je suis plutôt d'une filiation des réformés cévenols. Donc vraiment recevoir sa paye parce qu'on a fait 3 cultes au mois de juillet et 2 enterrements, recevoir sa paye du ministère de l'Intérieur, ça paraît surréaliste. Mmh. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, mine de rien, ça veut dire qu'à la fois, moi je trouve ça assez équilibré, il faudrait en parler avec le président de notre église locale, mais ça veut dire que l'État, le politique et le religieux continuent à dialoguer. Donc en fait, ça veut dire aussi que n'importe qui ne peut pas devenir prêtre ou pasteur. Et ce serait extraordinaire qu'on ait le même système, une université. Moi, j'ai un diplôme d'État, je suis théologienne, j'ai un diplôme d'État, j'ai été financée, mon doctorat a été financé par le ministère de la Recherche. Alors ça peut faire frémir, on peut faire une levée de bouclier, mais n'empêche que si on fait ça pour toutes les religions, vous n'avez plus, parce que je vous assure que quand vous arrivez au doctorat, si vous étiez fondamentaliste au départ, ce qui n'était pas mon cas, vous ne l'êtes plus à l'arrivée. Soit vous avez fait une dépression nerveuse, soit vous êtes devenu athée, soit en tout cas vous ne pouvez plus être enfermé parce que c'est une faculté d'État. Donc on a un dialogue permanent. Je ne sais pas, par exemple, mon prof de sociologie des religions n'était pas du tout croyant. Donc on est vraiment dans un bain intellectuel, d'échange de pensées permanentes, où on essaie de comprendre pourquoi un tel croit ça, pourquoi on fait de l'histoire des religions, donc on compare, vous pouvez pas ressortir de là en étant fondamentaliste, en étant extrémiste, c'est impossible, et ça c'est vraiment intéressant. Le religieux, il est là, si on comprend pas, si on n'a pas une base, si on comprend pas un minimum, ce qui se joue avec la religion, on ne comprend pas l'homme, je crois. Ça nous a pris quand on était homme des cavernes, cette affaire. Donc, ça ne nous lâchera pas de sitôt. Après, comment est-ce qu'on peut faire pour accepter les uns les autres qu'il y a aussi quelque chose de l'intime, quelque chose du culturel, quelque chose finalement après quoi la discussion s'arrête parce que ce sont des paris qui sont différents, et puis laisser l'autre avec son pari. Moi, je vis les livres, de par les rencontres, de par l'émission de télé que j'anime, des rencontres incroyables où on ne croit pas du tout tous la même chose, mais en fait on s'écoute et puis on s'augmente les uns les autres, en fin de compte, sans être dans la confusion. Donc j'appelle de mes voeux que ce soit possible. Et je pense que la religion, en fait, est quelque chose de capricieux, comme plein d'autres choses, comme la colère, comme la frustration. C'est-à-dire que quand vous ne prenez pas les choses en main, elle vous éclate à la figure dans un second temps. Voilà. Après ça, je parle Voilà, là, c'est très brouillon en ce moment. La période qu'on vit, elle est brouillonne à souhait. Enfin, je pense j'espère qu'elle fera sourire les historiens dans 2 siècles, quoi, en disant quand même, ils n'étaient pas très au point, là. Ils ne savaient pas, parce qu'en fait, on ne sait jamais de quoi. Enfin, voilà, quand Fillon nous dit qu'il est catholique, qu'est-ce qu'il nous dit, en fait? Non, mais voilà, et bien, je crois que lui-même, il ne le sait pas. Donc, en fait, c'est intéressant de voir comme, effectivement, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce qu'il dit. La laïcité, c'est pareil. Les gens qui disent laïcité, en fait, mais en fait, ils savent pas que des fois, ils sont presque plus religieux que... Il y a une religion de la laïcité, en fait. C'est... Ouais. Ils savent pas très bien ce qu'ils disent, en fait. Ce qui est très, très important, c'est dans la laïcité, c'est pas de plus du tout parler de la religion. C'est par contre que quand on en parle, ce soit pas dans l'objectif de convertir les gens. C'est le prosélytisme qui doit être profondément interdit. Mais tout ça demande des redéfinitions, et puis il faudrait qu'on se calme tous tranquillement et qu'on dépassionne le truc, quoi. Et on a manifestement beaucoup de difficultés à le faire. Voilà.
Est-ce que, avec finalement tous ces points de repère que vous venez de développer et puis le contenu de votre ouvrage, on pourrait faire un pont, d'après vous, entre le rôle de l'apprentissage à être citoyen et finalement cette histoire des religions, le rôle des religions dans notre société? On pourrait presque imaginer qu'en ce moment, on serait dans la période de l'adolescence où tout part un peu en sucette et où, du coup, il est possible qu'après, ça donne quelque chose de construit.
Ah ben, moi, je pars toujours de ce principe. Hein. C'est mon credo, c'est Bernanos qui m'a appris ça. Il dit, un optimiste, c'est peut-être un imbécile heureux, mais un pessimiste, c'est un imbécile malheureux. Et donc, comme finalement, on est obligé d'être un peu imbécile à un moment donné, tout simplement parce que on ne sait pas, enfin, on ne peut pas maîtriser, on ne peut que faire des paris sur l'avenir, etc. Moi, je vais choisir la version optimiste et du moins espérer qu'effectivement, on soit dans une période... En fait, on est dans une... Pour moi, on revient au Moyen-Âge parce que les données ont changé. Et que la mondialisation fait qu'on est effectivement confronté à une diversité à laquelle on n'est pas préparé, qui nous angoisse... On a très très peur de perdre notre identité, comme si l'identité était comme un trousseau de clés qu'on portait dans notre poche et qui pouvait tomber de notre poche. Ça, c'est extraordinaire, cette espèce de peur de perdre l'identité. Ça aussi c'est une pensée religieuse, c'est une pensée magique. En fait, j'emploie souvent religion dans son sens négatif de pensée magique, quoi. Donc en fait, on va se mettre des gris-gris, etc. Et c'est vrai qu'on revient à un truc très très moyenâgeux. Très superstitieux. Moi, ça m'a vraiment étonnée dans mon expérience de pasteur d'entendre des gens être dans des pensées mais totalement irrationnelles, des gens brillants, des gens qui ont fait des études. Et donc, je suis assez d'accord avec vous, oui, cette adolescence au sens d'un Moyen-Âge qui, en fait, va brûler les sorcières. On va rebrûler les sorcières parce que c'est plus les mêmes, parce que les cartes, on redistribue les cartes. Et alors, est-ce qu'il y a une étape au-dessus de la mondialisation encore ? On ne sait pas. Attention, moi, mes enfants sont passionnés sur la probabilité de la vie extraterrestre, donc on devra redistribuer les cartes si tout d'un coup, il y a encore d'autres civilisations de l'univers qui arrivent. Pour l'instant, on gère avec la mondialisation, et c'est tout nouveau. Il faut avoir un peu de tendresse pour nous, on est un peu perdus. Mais c'est vrai que moi, si je vois, j'ai cessé de voir les choses à l'échelle de ma seule génération. Voilà. Donc, on
pourrait faire un pont aussi entre cet engouement assez récent pour la méditation, la pleine conscience au sens populaire du terme. On pourrait faire un pont entre la nécessité de l'intranquillité, la tolérance et cette nécessité aujourd'hui d'être recentré.
Ben, là, la question que vous posez, en fait, elle amène à distinguer la notion de spiritualité et la notion de religion. Ça aussi,
exactement,
c'est quelque chose, en fait, ça aussi, c'est des mots fourre-tout, tout le monde met tout derrière, etc. Moi, j'ai une conférence d'une heure et demie sur ce thème, donc je sais pas comment vous la faire courte, mais... qu'on ait des moyens, en fait, Ce qui est intéressant avec les techniques dont vous parlez, de la méditation à pleine conscience, etc., moi, je suis toujours, c'est pareil, mon espèce de fanatisme de l'intranquillité fait que je suis méfiante, parce que je ne voudrais pas que je m'endorme, en fait, pendant ma méditation. Et en même temps, je vois bien qu'on a tous besoin de trouver, en fait, des relais, on se pose, de freiner, que le monde change, et que, en fait, nos générations, on va aller à 100 à l'heure, tout d'un coup on va décélérer pendant une demi-heure à faire la pleine conscience, après on va repartir à 100 à l'heure. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'on vit. Parce que nos métiers, nos organisations réclament ça. Pourquoi pas, en fait, on va même trouver la méditation sur nos smartphones et puis mettre nos trucs dans le métro. Enfin voilà. Moi, sur le coup, j'ai tendance à... Des fois, je suis un peu réac et je me pense à ma grand-mère et je me dis, attention, tu vas finir comme elle, à être outrée parce que tes petits-enfants portent des pantalons alors que c'est des femmes. Bref. Donc, c'est vrai que je m'interroge aussi sur ma difficulté à voir le monde évaluer. Enfin, il faut arrêter de tout montrer du doigt et de dire, attention, c'est pas bien, etc. Donc moi, je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que là, ce qui se développe en ce moment, ce sont des outils qui sont, en fait... Qui ne dépendent d'aucune mode de confession. Ils sont supra-confessionnels, en fait. Vous pouvez faire la méditation de pleine conscience, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, rien du tout, athée, etc. Donc c'est intéressant de se retrouver autour d'étudier aussi avec les neurosciences, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change, etc. Après, je trouve que ça... n'enlève pas la question de l'identité de chacun. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de la peine à dire qui on est, parce qu'on a l'impression que quand on dit qui on agresse l'autre, en fait. Moi, c'est ça que je comprends pas très bien. Quand j'étais aumônier à l'hôpital, je faisais des visites à l'hôpital, voilà. Et quand je me présentais comme pasteur, autant vous dire, j'avais peu de chances de tomber sur un protestant, parce qu'on est quand même largement minoritaire. Et du coup, à chaque fois, je tombais sur un catholique, un juif, un musulman, etc. Et les gens, plein d'accueil, de sens de l'accueil, et la vulnérabilité, ça rend très humain, vous savez. Donc en fait, l'hôpital, c'est un lieu de grande humanité. Donc ils avaient envie de m'accueillir, ils n'avaient pas envie de me mettre à la porte. Donc ils me disaient « Ah, mais c'est pas grave, on est tous pareils ». Alors j'ai laissé dire pendant des années, parce que je voyais que ça venait du cœur, quoi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Tiens, comment sortir de ce « tous pareils », quoi ?» Et j'ai fini par dire aux gens, ça leur embouchait un coin, ils avaient du mal à reprendre après, mais moi j'étais plus à l'aise comme ça, je leur disais, non, je pense qu'en fait on n'est pas tous pareils, et en plus je pense qu'on croit vraiment pas dans le même Dieu en fait. Et par contre, moi, ça me rend d'autant plus intéressant l'idée de passer un moment avec vous. Et alors ils étaient un peu déphasés au départ, mais pour moi ça replaçait quelque chose d'essentiel dans la relation, qui est l'altérité. C'est-à-dire qu'en en fait, on est dans une société qui valorise deux choses, c'est le conflit et la fusion. Est-ce qu'il est possible de retrouver l'altérité ? C'est-à-dire que quand moi je dis que je suis chrétienne, ça n'agresse personne en fait, parce que quand je dis ça, moi en plus je vis avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, enfin, je m'en fous mais totalement de la confession des uns et des autres, plutôt non, ça m'intéresse, mais c'est-à-dire en tout cas, j'ai pas envie qu'on soit tous pareils, je ne rêve pas d'un monde où tout le monde croirait exactement la même chose. Ce qui me passionne au contraire, c'est justement que c'est pas le cas. Et est-ce qu'il est possible de retrouver un peu cet art de la disputatio, de l'échange, de pouvoir en fait se dire les uns les autres qu'on n'est pas pareil et que c'est bien ça qui est génial, quoi. Et c'est pour ça en fait qu'on trouve des outils communs, quels qu'ils soient, je trouve ça intéressant, des lieux communs au sens positif du terme et pas au sens de la banalité, qu'on trouve en fait des articulations, etc. Oui, mais par contre, qu'on sorte de la nostalgie de l'Éden, de l'indifférenciation, en fait. C'est fini, ça, et c'est ça qui est bien. Le défi aujourd'hui, c'est la différence. Et moi, je trouve ça super.
Donc, on pourrait associer la tranquillité à une absence de libre arbitre ?
Mais oui, quelque part, c'est ça. Quand je parlais d'Anna Arendt tout à l'heure, il n'y a pas plus tranquille qu'Eichmann. Et regardez son procès. Moi, je me suis cogné le procès à Eichmann. Je ne comprenais pas grand-chose. Un peu d'hébreu par-ci, un peu d'allemand par-là. Mais c'est regarder juste physiquement ce qui se passe, en fait. Le type le plus tranquille du procès, c'est Adolf Eichmann. Parce que lui, pas une seconde, lui traverse l'esprit qu'il ait fait une erreur, quoi. Il ne voit pas le problème. Parce qu'en fait, il avait abandonné sa tranquillité entre les mains d'un chef. Son argument phare, c'est de dire qu'il a obéi. Et ça tient la route, son truc, en fait, de dire, bah, écoutez, c'est pas très compliqué. Par exemple, bon, bah, vous n'êtes pas fonctionnaire, a priori, moi non plus, mais quand on est fonctionnaire, voilà, on est fonctionnaire, on a un État qui érige des lois, et on répond, on obéit. Bah, lui, il était fonctionnaire, au sens le plus carré du terme, quoi. Voilà, au sens de la fonction. On lui demande d'organiser le convoi de juifs, etc., vers les camps d'extermination. Bon, il semblerait qu'il ait été un peu choqué quand il a visité Auschwitz et qu'on lui a fait regarder à travers le trou de la chambre à gaz, voir ce qui s'est passé. Il n'a pas très bien dormi après, il n'a pas aimé, il a demandé qu'on ne le ramène plus là. Mais il a continué son boulot, parce que c'était ce qu'on lui demandait, et donc il obéissait. Et ce que dit Arendt, en fait, ce qui est intéressant dans le procès Eichmann, c'est que en fait, quand Eichmann dit on l'accuse d'antisémitisme, il dit « Mais non, mais j'étais pas du tout antisémite, mais c'est pas vrai, j'ai jamais tué un petit garçon juif gratuitement, etc. » Et en fait, Arendt a tendance à le croire et à dire en fait qu'on lui a fait un faux procès et que le pire, c'est ça. Et en plus, on a encore fait un faux procès après Arendt parce qu'on a cru qu'elle était en train de dire « Ben non, pauvre Eichmann, il n'était pas antisémite, vous êtes méchant avec lui. » C'est pas du tout ça qu'elle disait. Elle disait l'inverse. Elle disait « Le pire, c'est qu'il n'était même pas antisémite. » Le pire, c'est qu'il n'y avait même pas de passion dans son truc, quoi. Il n'avait pas de mobile, il obéissait. Donc oui, la tranquillité, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous décidez, vous choisissez un gourou, vous embarrassez pas trop de la question herméneutique, hein. Surtout, vous posez pas les questions des interprétations, vous faites pas des études de théologie, on vous dit « Ah oui, mais attention, il y a le manuscrit machin qui emploie pas le même mot, donc ça pourrait totalement changer le sens, surtout, vous faites pas ça parce que ça rend dingue. » Et vous dites ce qu'un jour un pasteur évangélique m'avait dit, l'évangile, c'est comme le code de la route, ça s'applique à la lettre, sinon ça n'a pas de sens. Bon, je n'ai toujours pas très bien compris ce que ça voulait, comment il faisait, mais bon, voilà, lui, il faisait comme ça. Et puis, rouler jeunesse, quoi, et sur des rails. Et là, vous êtes hyper tranquille. Hyper tranquille, le type s'est fait pendre tranquillement. Voilà. Il était content. Il avait fait ce qu'il devait faire.
Ça s'apprendrait, l'intranquillité ?
Ça s'éduque, je pense.
Mais... Comment ? Alors ?
Ah la vache, hein ?
Sur quoi on pourrait bien... Pardon, peut-être un petit verre d'eau. Par quoi on pourrait commencer ? Est-ce qu'il y a des points de repère ? Est-ce qu'il y a des valeurs phares ? Est-ce qu'il y a des exemples, des modèles ?
Le pardon, par exemple. Le pardon, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup intéressé Hannah Arendt aussi, parce que pour elle, ça fait partie des éléments, des valeurs qui garantissent la possibilité de recommencement. Quelque chose qui est très important pour Arendt, et je peux que être très d'accord avec elle, c'est l'infinie possibilité de recommencement. Et le pardon, ça permet la possibilité de recommencement. Il n'y a pas plus intranquille que quelqu'un qui est questionné par le pardon. Le pardon à donner ou le pardon à recevoir. Imaginez-vous deux secondes les situations où vous avez été en situation de devoir demander pardon ou de devoir le donner. Vous êtes une espèce de marmite à émotions qui cognent les unes contre les autres. Enfin, vous êtes, enfin, c'est les gladiateurs à l'intérieur de vous. Vous êtes dans l'arène, ça tourne, ça se, voilà. C'est vraiment et ça, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Le pardon, pour moi, ça articule plein de choses intéressantes. Ça articule la question de l'orgueil, la question de l'honneur, la question de la générosité, la question de l'amour. Là. C'est très pivot, quoi. Et je pense que c'est... J'ai jamais entendu que l'éducation nationale soit intéressée à cette notion. Voilà, j'ai dit juste ça comme ça.
Ça vous plairait. Ça vous plairait qu'on ait des cours de pardon à l'école ?
Non, pas des cours de pardon, mais...
Mais pourquoi ? Pour l'intitulé, ce serait assez poétique.
Je sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai un enfant qui fait l'école à la maison, alors c'est pour vous dire que j'ai un peu repris les rênes de ce côté-là.
C'est intranquille, l'école à la maison.
Ouais, c'est hyper intranquille, mais c'est génial. Hein, c'est vraiment, je suis hyper reconnaissante parce que on a appris des choses. C'est ça aussi, c'est de renoncer à déléguer en permanence. Mmh. Ça m'empêche pas de faire confiance parce que le deuxième, il est dans l'établissement dont j'ai tirer le premier avant que ce soit un total carnage. Mais donc, c'est pas une totale remise en cause. Mais c'est aussi cette façon de dire... Alors, pardon, je dévie, du coup. C'est une façon de dire que le système n'est pas possible. En fait, tout ne se systématise pas. Et la religion et la politique sont des choses qui ont tendance à vouloir systématiser, qui ont tendance à vouloir que les choses une fois pour toutes, que quelque chose... Voilà, il y a la vie, et la vie humaine, elle n'est pas réductible, et il y a des gens qui ne rentrent pas dans un système, et c'est ces gens-là qui nous obligent, en fait, à être intranquilles, et du coup, à inventer des choses, et c'est pénible. C'est-à-dire que si, effectivement, on veut avoir fini à 16 heures... tous les jours, c'est pas possible, quoi. Et donc, c'est une espèce de métier à tisser qui n'en finit jamais. C'est le métier d'humain, en fait. Enfin, pour moi, c'est ça.
On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, même au sein d'une même famille, on est tous différents, ce que vous disiez. Il y en a qui peut aller à l'école, pas l'autre.
Oui, parce que l'erreur, quand vous êtes arrivé, quand vous en avez fait un pour essayer, pour voir, et que vous dites que vous en sortez pas si mal, vous pensez que vous allez pouvoir, sur le deuxième... utiliser les mêmes recettes. Quand vous avez de la chance et qu'ils sont du même sexe, vous pouvez éventuellement refiler les fringues, mais c'est la seule chose que vous pouvez refiler au deuxième. Vous ne pouvez pas raconter les mêmes histoires, vous ne pouvez pas l'endormir de la même manière, le rassurer de la même manière, et vous ne pouvez même pas l'inscrire dans le même endroit social, en fait. C'est pour ça que je me suis arrêtée à deux. Il m'a fallu le deuxième pour comprendre, après j'ai dit c'est bon, stop, je ne peux plus.
Dans votre livre, il y a comme des accompagnants, je trouve, des idées qui reviennent, et puis des personnages. Mmh. Alors, il y a René Char qui revient.
Oui, qui est
Alors, je voudrais savoir pourquoi dans ce livre il y a autant René Char.
C'est une bonne question et en fait il y a une raison en amont et une raison en aval. La raison en amont, elle est très simple, c'est quelqu'un pour moi qui a des paroles très à la fois très percutantes. Je ne sais pas comment il arrive à faire pour que l'aphorisme n'ait pas cet aspect de formule, en fait, de slogan. C'est-à-dire que même l'aphorisme est poétique et puis voilà, c'est quelqu'un qui a mis les mains dans le cambouis aussi. C'est pas de la poésie, enfin c'est de la poésie au sens du faire, quoi, de se cogner aussi au monde. Voilà, donc ce sont aussi des témoins, les gens qui ont survécu dans leur pensée à ces périodes aussi sombres de l'histoire. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que j'ai découvert, entre-temps, j'ai écrit un roman qui se passe dans la vallée de la Durance, et j'ai découvert qu'en fait, René Char était quelqu'un, j'ai découvert après, par une amie qui l'a bien connu, qu'il avait un lien particulier lui aussi avec le Luberon, la Durance, etc. Et donc ça m'a intriguée, je me suis dit c'est vraiment quelqu'un, comme s'il y a des endroits de nos vies où ça converge en fait de façon un petit peu mystérieuse.
Il a habité dans cette région ?
Et oui, enfin il a été très lié à quelqu'un qui habitait cette région-là, oui.
D'accord. Mmh. Alors vous avez quand même des auteurs comme ça, des poètes qui reviennent, qui vous accompagnent. Mmh. Vous avez vraiment une sorte de, comment je pourrais dire, on a la sensation que vous avez une sorte de fidélité avec des gens comme ça qui vous suivent au travers de vos ouvrages. Alors vous parlez d'Anna Arendt, de René Char. Alors il y a un fil continu quand même entre tous ces personnages, hein, qui défendent des idées fortes, qui sont des gens engagés, qui sont des gens qui ont l'art du mot.
Des insubordonnés aussi.
Des intranquilles, on pourrait
oui.
dire.
Oui, oui, ça va avec, ouais. Ouais.
Alors, est-ce que cet endroit-là sont des matières, est-ce que finalement vos maîtres pourraient presque être plus des auteurs de cet endroit-là que la foi?
C'est convergent, ça aussi, en fait. Pour moi, c'est une drôle de question parce que c'est très embarrassant pour un chrétien d'être forcé de dire qu'il y a des livres qui l'inspirent tout autant que les textes.
Pourquoi c'est embarrassant ?
Mais non, mais oui, c'est embarrassant parce que voilà, parce qu'on est quand même un petit peu habitué à une forme de dogme. Mais c'est vrai que je le dis beaucoup, et que je crois quand même qu'à la fameuse question du livre à emporter sur l'île déserte, ça restera la Bible, ne serait-ce que parce qu'on a plein de livres en un seul, économiquement en fait, pas économiquement au sens financier, mais au sens pratique, vous avez tout plein de livres en un seul, et je pense que ça balaye vraiment un très très large spectre de l'humanité rassemblé en une bibliothèque improbable. Ce sont des auteurs qui n'auraient jamais dû se côtoyer en fait. C'est une bibliothèque, hein, la Bible c'est pas un livre. Et donc ça c'est intéressant. Après ça, oui, mais pour moi ce sont des gens qui redisent ce que moi je comprends de l'Évangile. Je vais pas dire qu'ils redisent l'Évangile parce que c'est pas leur livre de référence, que ce soit Char ou Arendt, la pauvre elle se retournerait dans sa tombe en m'entendant dire ça, mais malgré tout l'infinie possibilité de recommencement, vous voyez les connexions que je peux faire, pour moi c'est la même source, en fait. Voilà.
Écrire, c'est votre façon à vous aussi de transmettre, d'être pasteur ?
Non. Enfin, non. Non, parce que d'abord, être pasteur, c'est très pénible, parce que les gens pensent... On a beau, les protestants, avoir essayé de jouer le jeu quand même d'abolir en fait toute structure pyramidale sur le plan ecclésiologique, c'est-à-dire qu'un pasteur, on passe notre temps à dire qu'on est des hommes et des femmes comme tout le monde, mais les gens ne veulent pas ça. Ils veulent pas qu'on soit des hommes et des femmes comme tout le monde, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, à la fois, ils nous disent « Ah, c'est ça qui est bien chez les protestants, c'est que vous pouvez vous marier, vous savez ce que c'est, quand les enfants font leurs dents, les crises de couple, etc. » Et en même temps, si tout d'un coup, vous avez un défaut, ils sont très, très déçus. Et comme moi, j'ai beaucoup de défauts, je trouvais que c'était une pression énorme, quoi. C'est une pression énorme. Et c'est vrai que ce sont des livres qui conduisent des fois à des courriers où il y a une demande massive de salut sur ma propre personne à laquelle je ne peux absolument pas répondre. Quelqu'un comme Lita Bassé aussi, qui est dans ce type d'écriture, des fois, il faut faire vraiment très attention parce qu'il y a des gens qui ont soif de gourou, quoi. Enfin, il y a vraiment dans ce besoin, justement, de déléguer à quelqu'un une réponse, une solution. Donc, c'est toujours mal me comprendre, mais il y a des gens qui font des fixations comme ça. Donc, être pasteur, en sens, ne m'intéresse pas. Et puis, moi, j'ai une activité de romancière aussi, où je crois vraiment que... en tout cas, j'ai aucune intention. Moi, quand j'écris un roman, je suis dans un état un peu second d'hypnose, où je ne calcule pas du tout ce que je suis en train de faire non plus. Et puis, je ne suis pas en train de me dire, je vais faire passer un message. Le message, c'est l'endroit... J'ai la chance de pouvoir écrire les deux choses, des essais et des romans. Si j'ai un message que je veux faire passer, je vais écrire un essai, je ne vais pas écrire un roman. Un roman, c'est vraiment de la chair, c'est de la pure chair, en fait. Donc, je n'ai pas de message. Après, forcément, comme vous parlez de René Char, d'Arendt, etc., ce sont des gens qui me forment presque malgré moi, et c'est vrai que la Bible me forme aussi, enfin, ma lecture de la Bible me forme d'une certaine manière. Chacun est formé par quelque chose. Tout ça, au bout d'un moment, ça fait un tissu, plus on vieillit, plus finalement les ramifications et les fils sont tissés serrés, et vous avez du mal à les désolidariser les uns des autres.
Dans le livre, vous parlez d'un de vos enfants que vous trouvez parfaitement intranquille.
Oui, il est extraordinaire. Oui. Celui qui fait l'école à la maison, par exemple.
C'est un trait de caractère. J'en reviens à la question de l'apprentissage. C'est un trait de caractère naturel qui fait que finalement, spontanément, vous êtes devant quelqu'un qui s'annonce intranquille, et puis c'est assez réjouissant parce qu'il va être inventif avec cette intranquillité là. Et est-ce que lui, par exemple, du coup, il arrive à transmettre à son frère facilement, ou est-ce que voilà.
C'est marrant comme question. Alors maintenant c'est le moment, c'est l'heure de vérité. J'ai reçu la semaine dernière, j'ai reçu un prix pour ce livre, le prix Panorama à la Procure, et j'ai eu l'immense honneur qu'il me soit remis par Sylvie Germain avec François Cheng, qui recevait un prix d'honneur en fait conjoint au prix que je recevais. Et du coup, je me suis fendue quand même d'un petit discours, et je me suis rendu compte, comme je ne fais pas trop de langue de bois et que s'il faut faire un discours, j'ai envie de dire quelque chose d'un peu vrai, quoi. Je leur ai dit quelque chose de tout à fait vrai, c'est qu'il y a un livre en creux de ce livre-là, qui est celui de l'immense difficulté de vivre, en fait. L'intranquillité, pour moi, c'est aussi d'avoir réussi à muer. Vous avez le stade paralysant qui s'appelle l'angoisse, tout simplement, hein, et que l'intranquillité, c'est un euphémisme, ou alors c'est la sublimation. C'est la sublimation de personnes, de personnalités qui arrivent, quand je disais, voilà, c'est de trouver cette famille qui trouve tout aussi étonnant que vous le fait que quelque chose existe plutôt que rien. Le problème, c'est que vous ne la trouvez pas tout de suite, cette famille, et qu'enfant, ça donne lieu à des angoisses majeures, en fin de compte. Donc, c'est vrai qu'il y a ce chapitre où je de tendresse à l'égard de mon fils, mais en même temps c'est un souci parce que l'histoire veut, enfin l'humanité nous a montré qu'il y a des gens qui ne survivent pas, en fait, et ça c'est la porosité dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait le calibrage de la porosité, tout le monde ne peut pas le travailler. Moi, j'ai eu la chance, je pense, de par les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, par l'écriture, parce que j'ai trouvé cette voie pour moi, de pouvoir calibrer la porosité à un endroit où je peux survivre à ça. Et donc, voilà, en creux de ce livre, il y a quand même... je prends vraiment au sérieux qu'il y a des gens pour qui l'intranquillité s'appelle l'angoisse de vivre, la difficulté de vivre, et que là... on est dans des zones qui sont... des lignes de crête, en fait. Et alors, Moi, c'est quelque chose qui me touche parce que j'ai le sentiment de effectivement, d'avoir toujours été un peu sur une ligne de crête et d'avoir eu souvent le vertige, en fait, à droite, à gauche. Et je vois effectivement un de mes fils qui prend cette route-là très, très sérieusement et qui, de temps en temps, est voué à une angoisse qui me déchire le cœur. Et en même temps, je vois aussi que c'est un enfant... Voilà, j'avais un ami écrivain il y a quelques mois au téléphone qui allait pas bien du tout et je lui disais mais tu sais là, enfin ouais, et puis il pouvait plus écrire évidemment parce que quand on va très mal, on n'arrive plus à écrire, etc. Mais je lui disais tu sais c'est tu refabriques ta matière en fait. C'est-à-dire c'est aussi d'avoir un entourage en fait ou quelque chose qui nous débalise en fait, qui nous permette de se dire que oui, l'intranquillité n'est pas nécessairement meurtrière et qu'à un moment donné, ben oui, on se retrouve dans des situations vraiment intérieures, dans des énormes conflits parce que c'est une extrême sensibilité et que c'est aussi cette sensibilité ben, qui des fois conduit au pire, mais aussi qui... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce petit livre de Stieg Dagerman qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Et tout le monde ne connaît pas ce livre, c'est dommage parce que voilà, c'est un peu une, pour moi c'est un socle aussi. Et tout à la fin, il trouve quelque chose et ça a un rapport avec le temps. C'est un rapport au temps en fait. C'est la façon dont il va sortir de cette espèce de désespoir et de mélancolie, c'est-à-dire qu'il va replacer les choses, il va abolir la notion de temps. Ça aussi, c'est très évangélique. Hein. C'est le royaume, c'est ça. Hein. Vous parlez avec Emmanuel Carrère du royaume. Il comprend lui-même, sans être dans une démarche chrétienne, que c'est ça. C'est l'abolition du temps, en fait, le royaume. Hein. Et donc, Stieg Dagerman, il trouve ça. Il écrit un texte magnifique qui, tout d'un coup, donne un courage de vivre inouï. Ça finit là-dessus. Vous êtes bien. Et moi, je dis ça en conférence. Les gens ne connaissent pas. Ils trouvent ce texte puissant, ils prennent les références, ça. Je laisse quelques minutes, après je dis voilà, après ça il s'est suicidé. Et c'est comme si, et c'est un peu, paraître un peu une mise en scène sadique de ma part, mais en fin de compte, ce qui est intéressant dans le mouvement que ça produit, c'est qu'il y a des gens pour qui le fait qu'après avoir dit ça, il se soit suicidé, ça annule. C'est comme si ce qu'il avait dit ne valait pas, parce que finalement quand même, il nous a lâchés quoi. Il nous a redonné confiance, il nous a insufflé un courage de vivre, et puis finalement, il nous a lâchés.
Oui, oui.
Mais en fait, non, parce qu'il avait d'abord aboli le temps. Donc après, oui, lui, il a décidé d'arrêter. Mais ça n'enlève en rien le fait que ce qu'il est écrit là, moi, continue à me donner le courage de vivre. Donc vous voyez, ça demande à enlever plein, plein de référentiels coutumiers, en fin de compte.
Quand vous écrivez, vous, qu'est-ce que vous aimeriez convaincre, engager, voilà, par rapport à des auteurs finalement qui sont encourageants, vous aimeriez encourager, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment, ou à défaut de le viser volontairement, j'ai bien compris, votre façon d'écrire n'est pas une façon guidée par un but. J'ai bien saisi cela, mais finalement, avec le recul, maintenant que vous êtes écrivain, que vos livres sont vendus, qu'est-ce que vous aimeriez ?
Ben moi, ce que j'aimerais, c'est ce que j'aime quand je lis. C'est-à-dire pas des gens qui me donnent une recette, mais des gens, en fait, qui me permettent... C'est ce que je disais quand j'ai reçu ce prix. Je racontais qu'en fait, mon plus jeune fils, quelques jours avant que je quitte la maison pour aller à Paris recevoir ce prix, avait dormi sur la terrasse pour regarder les étoiles, parce que donc ils sont dans leur phase extraterrestre ou pas. Et en fin de compte, je disais que pour moi, recevoir ce prix, c'était un peu comme si j'avais reçu un signal de l'espace qui me disait, en fait, tu es sur la bonne planète, regarde, il y a des gens comme toi. Pour moi, ça m'étonne beaucoup que les gens lisent ça. Moi, ça m'étonne toujours que quelqu'un, à chaque fois que j'ai un nouveau bouquin qui sort, je pars du principe que personne ne le lira. Ça fait toujours marrer mon mari. Mais c'est vrai, je trouve toujours étonnant que... d'aller à un endroit où d'autres vont me dire mais c'est ça. Et moi, c'est ça que j'aime vivre quand je lis. C'est en fait Il n'y a pas de solution, si vous voulez, ça ne va pas nous enlever l'angoisse de mort, l'angoisse de l'absurde, le mal de dents, les problèmes d'éducation, les problèmes financiers, le vertige devant les informations, devant les injustices dans le monde, etc. Non, mais à un moment donné, vous avez une espèce de placenta entre vous et les autres, en fait. Il y a un truc de circulation. Le livre, c'est le plus beau placenta du monde, quoi. C'est qu'en fait, tout d'un coup, vous recevez de l'autre et vous vous sentez autorisé à être ce que vous êtes. Et la semaine dernière à Versailles, il y a un tout vieux monsieur qui est venu me voir en me disant « Mais en fait, en vous disant, j'ai compris, mais moi c'est ça en fait, je suis un intranquille. » Et en fait, je me suis dit « Mais c'est pas si mal parce que tout le monde m'a toujours dit que j'étais compliquée. Mais non, je suis pas compliquée, je suis intranquille. » Et de voir ce monsieur se réconcilier et se sentir autorisé, en fait, à se dire « mais c'est chouette, en fait, d'être comme ça ». Et en fait, il y a des gens qui aiment bien. Parce que c'est vrai que de temps en temps, quand on vous voyez, c'est ça, les enfants sont pénibles, les enfants intranquilles, parce que vous leur donnez un truc, ils le démontent, en fait. Et parce qu'ils veulent comprendre comment ça fonctionne. Et les intranquilles sont des gens qui n'ont jamais quitté cette phase, en fait, du pourquoi, et tant qu'on ne comprend pas, on ne veut pas faire. Moi, tant que je n'ai pas compris, je ne fais pas le truc. Et vous êtes un espèce de mulet, là, qui bloque la route à tout le monde, et les gens essaient de vous convaincre, mais tu comprendras plus tard. Non, je ne veux pas comprendre plus tard, maintenant. Et donc, on a la réputation d'être pénible. Mais en même temps, voilà, c'est ça, moi, que je veux vivre avec les livres, et c'est... il n'y a pas de solution. Vous lisez Emma Bovary, vous n'avez pas de solution à la mesquinerie et à la vilénité féminine et au parisianisme et à se laisser attraper comme des papillons dans les fausses lumières, quoi. Mais vous êtes content de savoir qu'en fait, cette espèce de zone sombre en vous, quelqu'un vous amène à la voir, pas en disant « regarde, t'es comme ça », mais en vous racontant l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est incroyable, ça, en fait. Pour moi, c'est incroyable, c'est extraordinaire.
Vous avez parlé de ce rapport au temps, finalement, pour l'intranquillité, en répondant à cette question. Il y a un temps particulier pour l'intranquillité, enfin, un rapport au temps, pardon, plutôt de l'intranquillité. On est intranquille différemment, enfant, adolescent, vieillissant, on se regarde différemment. Voilà. Quel est le rapport au temps des intranquilles ?
Mais je crois que c'est le rapport au temps et ce qui peut en fait permettre à l'intranquille de vivre quelque chose de la paix, de vivre quand même quelque chose de la paix en fait.
Je comprends.
Voilà. Et je pense après qu'il y a des périodes de la vie qui sont plus périlleuses que d'autres. Et l'adolescence en est une, et l'enfance en est une. Et peut-être que c'est pas un cadeau d'être enfant d'intranquille, parce qu'en plus, on se reproduit entre nous, souvent. Et du coup, c'est vrai que moi, par exemple, par rapport aux reproches que je pourrais me faire, c'est que dans le temps de l'enfance, je crois qu'il faut quand même, de temps en temps, un peu border les choses et les simplifier, et avoir l'air peut-être plus sûr de soi que ce qu'on est vraiment, parce que c'est quelque chose qui peut être un peu plus rassurant, ce que moi je suis incapable de faire. Donc je suis pas sûre d'avoir été une super maman d'enfant. À l'adolescence, ça devient plus intéressant parce qu'ils ont besoin justement d'avoir des gens qui sont capables de se questionner.
On pourrait dire ça. Alors on pourrait dire que finalement dans l'enfance, c'est pas évident d'accompagner l'intranquillité.
Surtout, il ne faut pas se retrouver avec la pesanteur d'une intranquillité pathologique de ses parents, quoi. Voilà, c'est un enfant, il a besoin. Enfin, c'est là où il faut cloisonner quand même pas mal les choses. Voilà. Mais
alors qu'à l'adolescence, ça pourrait presque être un panache partagé.
Ouais, enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience de maman, pour l'instant. Je suis qu'au début de mes peines.
Vous finissez votre livre, et je finirai bien cet entretien sur... ce moment que vous partagez avec l'intranquillité, comme si elle était incarnée. Je dis comme si, sans y croire, parce qu'en vous lisant, on n'a pas du tout l'impression que c'est comme si elle est incarnée.
Oui, moi, je m'en suis souvent sortie avec la personnification dans ma vie. Il y a plein d'inconvénients à avoir un imaginaire galopant, ben, notamment ce que je décris là, c'est-à-dire cette faculté à ce que j'appelle feuilleter le catalogue des catastrophes, c'est-à-dire vous seriez censé dormir, et au lieu de quoi, vous imaginez tout ce qui pourrait se passer d'horrible à partir du moment où vous allez baisser la garde, en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment très très pénible. Et puis alors, voilà, le problème de l'imaginaire, c'est qu'en fait vous y croyez complètement, enfin c'est tout juste si ça n'arrive pas déjà, etc. L'aspect positif de ça, c'est cette personnification, c'est à un moment donné... Moi, ce qui m'a beaucoup sauvée dans ma vie, c'est la tendresse, en fait. Et d'avoir de la tendresse pour ce qui m'enquiquine, c'est ce que j'essaye de décrire dans ce dernier chapitre. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs lecteurs qui m'ont dit que depuis qu'ils avaient lu ça, ils faisaient plus d'insomnie. Alors, on parlait de médicaments.
Oui.
Tout à l'heure, je me dis, waouh,
c'est un bon tranquillisant.
Ouais. Somnifère, c'est pire. C'est pire que ça, ce serait un somnifère. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, de lutter contre, en fait. Je sais pas, je crois qu'il faut toujours voir faut connaître ses ennemis, mais il faut aussi toujours arriver à avoir de la tendresse, en fait. Et des fois, d'accueillir ce qui nous embête le plus, c'est ce qui permet peut-être de donner son lot, en fait, à chaque chose de la vie. C'est ça, je disais tout à l'heure, les religiosités, la colère, ou en tout cas même ne serait-ce que les émotions qui nous traversent, souvent en fait on fait des dégâts énormes à les comprimer, essayer de les faire rentrer dans une boîte, les reporter, etc. On nous éduque à ça et c'est bien, on ne peut pas toujours être en train d'exprimer nos émotions, ce serait incroyable. Enfin, je suis en train de m'imaginer comment serait un monde où tout le monde exprimerait en temps réel ses émotions, c'est-à-dire on aurait tous entre 2 et 3 ans, vous voyez, comme les enfants qui se roulent par terre, etc. Donc c'est pas possible, mais du coup on a peut-être poussé le contrôle un peu trop loin, et c'est vrai que de temps en temps, moi je dépense une énergie folle à lutter contre plein de choses, et puis des fois de les accueillir, ça fait que ça prend moins de place. En fait, on a toujours peur que quand on laisse une place à quelque chose, il va nous envahir. Et en fait, souvent, les choses nous envahissent quand on leur laisse aucune place. Et pour moi, l'intranquillité, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle va vous pourrir la vie si vous lui laissez aucune place. Et mon expérience à moi, c'est qu'une fois que j'avais accepté qu'elle faisait partie de ma vie, que c'était comme ça, que d'abord, elle avait des vertus, notamment celle de m'ouvrir aux autres, d'accepter des aventures que je n'aurais pas acceptées sinon, d'avoir un petit peu d'audace, d'assumer un certain inconfort, une fois que je lui laisse cette place, finalement, on cohabite plus si mal, elle et moi, parce qu'elle se sent un minimum reconnue, quoi.
Vous vous souvenez du moment où elle est devenue votre copine ?
Mais je crois que c'est en écrivant ce livre, en fait, quand même. Je pense que c'est vraiment le moment où... Parce que ce dernier chapitre, je l'ai vraiment écrit pendant une nuit d'insomnie. Mais c'est ça, vous voyez, vous dites, mais non, mais c'est terrible, demain j'ai une journée énorme, je ne vais pas arriver à travailler, vous angoissez, donc ça vous prend déjà une heure. Si vous aviez cessé de vous angoisser au bout de 5 minutes et que vous aviez pris votre ordinateur pour écrire le dernier chapitre de votre bouquin, vous seriez rendormie comme un bébé toute contente une heure plus tôt, quoi. Enfin, c'est ça, en fait, la leçon du truc.
Que vous auriez moins de travail le lendemain, parce que ça, c'est fait.
Ça, c'était fait, voilà, exactement. Vous voyez comme les choses se retournent dans la vie.
Marion Muller-Collard, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour cet échange très riche.